Au fil de la vie, aujourd'hui, vous est présenté par les pubs l'Église protestante unie de Belgique et nous sommes avec le pasteur Bruno Jousselin, pasteur de l'Église du Musée à Bruxelles. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno, on a déjà fait une émission avec vous pour parler globalement de l'Église protestante et on a peut-être plus insisté sur ce qui faisait la spécificité du protestantisme par rapport au catholicisme. On va peut-être, si vous le voulez bien, rentrer dans le protestantisme et on va un petit peu étudier peut-être le niveau Église. Et d'abord, première question, pourquoi est-ce que dans le protestantisme, il y a autant de sensibilité, je ne sais pas comment dire, de sensibilité, de famille, d'églises différentes hein. On parle des calvinistes, des luthériens, des baptistes.
On va essayer de ne pas se perdre, parce que c'est un peu labyrinthique. La mouvance protestante, on dit de façon humoristique que c'est une des choses que Dieu ne connaît pas, c'est le nombre d'églises protestantes qui existent à travers le monde. Parce que c'est très vaste. Alors, il y a des grandes familles, il y a des grands courants, pour faire très simple. Le premier, c'est Martin Luther, la première réforme, on va dire, ce sont les luthériens. Ou alors, je disais dans la dernière émission, ils s'appellent aussi évangéliques dans le sens allemand. Evangelische Kirche, c'est les catholiques évangéliques, ce que disait Martin Luther. Donc ça, c'est la première partie la plus historique. Voilà. C'est peut-être ceux qui sont, d'une manière écuménique, les plus proches des catholiques, puisque, comme je le disais, la réforme luthérienne n'a pas voulu une séparation, même si la séparation est venue, la séparation est un peu un accident de l'histoire. Il n'y aurait pas dû y avoir cette réforme. Du coup, comme certains pays, comme le nord de l'Europe, par exemple, qui sont devenus complètement luthériens, protestants luthériens, toute la structure de l'Église est passée au luthéranisme, parce que c'est l'État qui a complètement changé et l'Église avec. Du coup, on a une structure épiscopale, on a une structure très... Quand on regarde les évêques luthériens du nord de l'Europe, ils ressemblent à des évêques catholiques de partout dans le monde. Tout à fait étonnant, à part qu'il y a des femmes. C'est peut-être ça la différence. Après, la deuxième famille, ce sont ce qu'on appelle les réformés ou les calvinistes. Donc c'est la réforme de Jean Calvin. Jean Calvin arrive en second. Il est pasteur, et alors que Luther était catholique, moine catholique. Calvin est protestant. La rupture a été consommée. Lui, il va aller un peu plus loin dans les réformes. Et donc, ça va donner naissance à l'Église réformée de France, par exemple. Dans le temps, il y avait l'Église réformée de Belgique, le RB, ce qu'on appelle les calvinistes. Après, en même temps, au moment de la réforme, il y a une troisième tendance qui va apparaître, qui va être ce qu'on avait appelé le mouvement évangélique, qui va donner naissance au mouvement évangélique avec les anabaptistes. Donc ceux qui refusent le baptême des enfants au profit d'un baptême de professants, donc baptême d'adulte. C'est ce qui va donner, quand on veut rattacher les mouvements évangéliques anabaptistes à la réforme, on va prendre la figure de Thomas Münzer. En même temps, c'était un peu un illuminé, donc Luther et Calvin sont opposés à lui de façon très très violente. Hein.
Okay. Qui est moins connu que Luther et Calvin.
Moins connu en France, en Suisse. Il est assez connu parce qu'il était d'origine suisse. Donc c'est quelqu'un qui va avoir de l'importance. Et on va retrouver ces thèses après, voilà. Et puis, il y aura le revivalisme du 19e siècle qui va donner naissance à un certain nombre d'églises dites évangéliques qu'on va trouver parmi les baptistes. Et il y aura tout le piétisme, il y aura, voilà. Et principalement, ça va être des églises qui vont venir des États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de protestants qui ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis dans les églises dites ce qu'on va appeler le refuge parce qu'il y avait des persécutions, donc ils partent outre-mer aux Amériques, ou alors c'était des protestants qui avaient une conviction très forte d'une espèce de puritanisme protestant du 19e siècle, 18e, 19e siècle, ils vont partir aux États-Unis pour fonder une société pure parce qu'ils disaient l'Occident est corrompu. Ils vont se mettre là-bas et du coup, il va y avoir un certain nombre d'églises qui vont être fondées. Et là, ce sont surtout des églises au départ congrégationalistes. Donc c'est un espèce de, j'allais dire, de chef de clan où ce sont des clans qui vont s'installer, qui vont s'établir et qui vont essaimer ou qui parfois vont rester dans une ville. Et ça va donner le congrégationalisme. Et c'est là où alors la mouvance protestante va devenir une vraie, véritable nébuleuse. Avec des choses tout à fait respectables, même derrière cette volonté de pureté, on va trouver... Alors en Europe, on aura par exemple les Mennonites. En Amérique, on va trouver bien sûr des Mennonites. On va trouver beaucoup d'autres mouvements. C'est là aussi va naître le pentecôtisme, les mouvements charismatiques. Et j'allais dire à l'extrême droite de ces mouvements, des mouvements quasiment sectaires. On est tellement renfermé sur soi, les autres sont les impurs, nous on est les purs. Et ça va, on va arriver à des mouvements identifiés comme étant complètement sectaires, complètement fermés, et à la théologie complètement aberrante.
Ce qu'on a vu à la télévision il y a quelques semaines...
Voilà, on a vu cette émission Investigation avec un pasteur qui se dit protestant, dans une église qui fait partie de la mouvance protestante, parce que je ne peux pas interdire à qui que ce soit de se dire protestant, le titre de protestant ne m'appartient pas, même si c'est l'église protestante unie de Belgique, mais il y a d'autres églises protestantes, il y en a d'autres qui peuvent se réclamer du protestantisme, mais celle-là, on a parlé de dérives sectaires, on a parlé d'abus sexuels, on a parlé d'enseigner la théologie du créationnisme. C'est pas une théologie conforme à ma lecture, en tout cas de l'écriture. Et c'est là où il y a des mouvances qui vont être très très diverses jusqu'aux sectes.
RCF.
Dans le cadre de l'EPUB, il y a différentes mouvances qui cohabitent les unes avec les autres. Vous avez parlé du luthérianisme, vous avez parlé de l'église réformée et puis des églises évangéliques. Dans les pubs, même si tous les protestants belges ne sont pas dans les pubs, toutes ces mouvances cohabitent les unes avec les autres.
Oui, les pubs, c'est l'église protestante unie de Belgique. C'est une église unie. Il y a eu ces mouvements au XXe siècle de créer des églises unies. Au départ, des églises unies, c'était des églises qui associaient des communautés luthériennes et réformées. Il y a l'église protestante unie de France, c'est ça. En Allemagne, il y a des églises unies qui unissent réformés et luthériens. La Belgique a été un peu plus loin en intégrant des communautés de type luthérienne, dans la zone allemande principalement, des églises réformées et des églises dites évangéliques, ayant une piété évangélique. Seulement, ces églises se retrouvent dans la constitution de l'Église protestante unie de Belgique, dans laquelle il y a la reconnaissance d'un certain nombre de confessions de foi. Alors, les confessions de foi traditionnelles, symbole des apôtres de Nicée-Constantinople, ce qu'on appelle les confessions de foi œcuméniques. Et puis, il y a les confessions de foi de la Réforme, la confession Belgica. Il y a les articles de Smalkald, il y a un certain nombre de textes comme ça historiques. La confession de foi de La Rochelle, qui est typique des églises protestantes réformées. Va y avoir une confession de foi qui a été intégrée, qui est la confession de foi de Bellart, qui est beaucoup plus contemporaine, qui est du XXe siècle. Donc ces églises se retrouvent dans cette unité-là. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de différence. Il y a des différences de sensibilité, il y en a qui sont, je l'ai dit, de tendance évangélique, qui ne pratiquent pas par exemple le baptême des enfants, qui ont une lecture assez littéraliste de la Bible, mais nous sommes unis dans une église, malgré les différences d'interprétation, malgré les différences de sensibilité liturgique, de sensibilité théologique, il n'empêche que ce qu'une église locale membre de l'EPUB fait, une autre église locale de l'EPUB ne peut pas le contester.
Est-ce que c'est une union de ces différentes sensibilités protestantes, est-ce qu'elles sont unies au sein de l'EPUB pour des raisons purement fonctionnelles, ou bien est-ce que, d'une certaine façon, quand on est protestant, croyant, chrétien, on peut nourrir sa foi à différentes sensibilités? Est-ce qu'il y a une perméabilité entre ces églises?
Il y a une perméabilité entre ces églises. Les protestants ne sont pas ecclésialement centrés sur une communauté. Ils peuvent passer en fonction du parcours de vie d'une communauté à l'autre, parce que dans cette période de mon existence, je suis plus sensible à telle expression de la foi. À un moment, j'aurai peut-être mûri, peut-être changé, je vais être plus sensible à une autre expression de la foi. Voilà. Donc, il y a des perméabilités qui se font, mais au sein de l'Église protestante unie de Belgique, on se reconnaît les uns les autres. Il y a d'autres structures qui existent. Il y a le synode fédéral, dans lequel il y a des églises évangéliques qui se mettent ensemble. C'est une espèce d'entente administrative. Puis après, il y a des églises qui ne sont même pas membres du synode fédéral ou de l'EPUB. Il y a des ecclésioles, comme on les appelle, ou qui ne veulent pas parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas d'accord. Le fait de se mettre ensemble, ils veulent rester indépendants. Donc, voilà.
Il y a vraiment une grande, grande diversité. Et alors, dans une église ou dans un temple, c'était une autre question que j'avais pour vous. Est-ce que des pasteurs de sensibilités différentes peuvent cohabiter, travailler ensemble, éventuellement enrichir mutuellement leurs approches?
Bah, c'est le principe même de l'Église protestante unie de Belgique, où des pasteurs ayant des sensibilités théologiques et liturgiques différentes vont être obligés d'une certaine façon de travailler ensemble à travers d'abord des districts, puisque les pubs est organisée en districts. Donc c'est donc des régions.
C'est un peu l'équivalent d'un diocèse finalement.
C'est un peu l'équivalent d'un diocèse. Donc là, il y aura une pastorale qui va se réunir, dans laquelle les pasteurs sont invités à se rencontrer. Alors chaque district va se donner son rythme de rencontre de pastorale pour échanger, pour dialoguer, pour organiser des manifestations. Donc on est structurellement obligé de le faire. Et on a une journée pastorale tous les ans, on a une journée de recherche théologique, on a voilà. Et il faut que toutes les sensibilités puissent s'interpeller, puissent dialoguer, puissent se rencontrer. Et on s'aperçoit, il y a des moments de tension. Il y a parfois des sujets un peu forts. Donc il y a des sujets où ça crée des tensions, parfois même des oppositions très fortes. Mais l'idéal, on n'y arrive pas toujours, c'est de pouvoir après se réconcilier dans la prière, par exemple. Pouvoir porter ces tensions en disant, maintenant on va prier ensemble. C'est pas toujours évident quand on a eu une réunion un peu houleuse, parce qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est humain. Mais ce qui est chrétien, c'est de pouvoir prier ensemble après.
Et encore une fois, sur ces belles paroles, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Bruno Jousselin. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église du musée à Bruxelles et que vous veniez nous parler de l'EPUB. Cette fois-ci, une émission consacrée à la diversité des églises au cœur de l'EPUB. Merci beaucoup et bonne semaine à tous.